Mais alors, ces superviseurs...
Que pensez-vous justement des chamans, oui, qui, eux, donc, utilisent les psychédéliques sous leur aspect naturel, oui, depuis des millénaires, on le sait. Pensez-vous justement que ces chamans auraient des choses intéressantes à nous apprendre ou à vous apprendre, justement, dans la formation?
Ah, bien sûr. Oui. Ce sont les spécialistes d'état modifié de conscience, ces chamans.
D'accord.
Hein, avec ou sans substance, hein, dans l'hémisphère nord, ils font plutôt des états modifiés de conscience avec des tambours,
oui,
sans substance, alors dans l'hémisphère sud, plutôt avec substance, mais enfin, ça c'est grossier ce que je vous dis, c'est pas tout à fait vrai. Mais pour vous dire que donc, oui, bien sûr qu'ils auraient à nous apporter, parce qu'eux, ils ont toute ce qu'on appelle la cosmogonie,
oui,
c'est-à-dire l'interprétation du monde et la façon de, des cartes de, pour se repérer dans le monde particulier qui est induit par la prise de psychédéliques. Ils savent très bien gérer les effets des psychédéliques, ils savent très bien les canaliser, les amplifier si besoin ou les diminuer. Donc ils représentent vraiment les garde-fous nécessaires pour qu'une personne puisse vraiment atteindre ses objectifs avec la prise de la substance. Alors effectivement, ça nécessiterait une collaboration. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, c'est assez clivé. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les substances synthétiques, enfin, ou semi-synthétiques, le LSD, l'ecstasy, l'ibogaine, c'est-à-dire un extrait qui est donné en pilule de l'iboga. Donc ça, c'est fait par des médecins occidentaux, un peu à l'image de Groff, si vous voulez, qui lui n'est pas chaman, et qui s'est formé en faisant des expériences avec les psychédéliques, et ensuite en supervisant des gens. Il a supervisé donc au moins 5000 personnes avec le LSD, déjà, de Groff. Donc, si vous voulez, pour l'instant, c'est assez clivé. Il y a d'une part donc ces médecins occidentaux qui essaient des substances qui ont été créées par le monde moderne, et puis d'autre part, les chamans, qui eux ont depuis des millénaires expérimenté des substances des plantes, du coup, comme des composantes de l'ayahuasca, comme le yoga, comme les champignons et comme la sauge divinatoire. Et si vous voulez, pour l'instant, c'est du monde clivé, et c'est du monde qui pourrait tellement s'apporter, parce que si vous voulez, actuellement, le modèle scientifique de la physique quantique est vraiment un modèle qui permet d'expliquer certains phénomènes extraordinaires, certaines perceptions extrasensorielles, certains phénomènes qui se produisent en état modifié de conscience, quand on est sous psychédélique, ou même en état modifié de conscience en général. Et vraiment, c'est un modèle scientifique qui permet de faire travailler ensemble médecins occidentaux et chamans. Et donc, on pourrait imaginer que dans des cliniques, même quand on utilise des pilules genre l'ibogaine, c'est-à-dire un extrait de l'iboga, il pourrait y avoir présence dans les cliniques médicales modernes de chamans qui échangent leur savoir. Il ne faut pas non plus être dans le fait que le chaman sait tout, puis nous on sait rien, c'est-à-dire que chacun pourra apporter à l'autre. Mais ça, si vous voulez, le jour où ça pourrait se faire, là, ce sera très intéressant. Parce qu'actuellement, si vous voulez, des substances comme l'iboga et l'ayahuasca ne peuvent pas se prendre en dehors d'un contexte chamanique.
Oui, oui.
Ce serait vraiment très déraisonnable, très dangereux. Donc, et les chamans, par exemple, ne savent pas utiliser le LSD,
par exemple.
Pour eux, c'est absurde. Donc, il faudrait créer une collaboration entre ces deux mondes-là, et qui serait soutenue au niveau épistémologique, au niveau théorique, par les travaux de la physique quantique, pour expliquer ce qui se passe.
Mais il y a déjà quelques expériences de rapprochement, non? Peut-être Jérémy Narby, par exemple, je pense qu'il travaille au sein d'une association qui aide un peu les peuples premiers, au même titre qu'une association, vous connaissez peut-être, Arutam, dans le sud de la France, voilà, qui fait venir des chamans ici en France. Donc ça commence un petit peu à se développer, on a l'impression.
Alors, ça se développe, si vous voulez, mais c'est plutôt pour l'instant, effectivement, les chamans qui apportent leur savoir.
Oui.
C'est ce qu'on appelle, bon, par exemple, maintenant, il y a ce qu'on appelle le néo-chamanisme, qui est un mauvais terme, parce qu'en fait, c'est juste que c'est le chamanisme à appliquer à nos possibilités d'occidentaux, si vous voulez, pour l'instant. Parce qu'on ne naît pas dans la forêt, on n'est pas dans une famille de chamans, on n'est pas éduqué dès notre plus jeune âge à la cosmogonie de ces peuples-là.
C'est
actuellement, c'est plutôt que les chamans se déplacent, effectivement, livrent certains de leurs secrets. Le professeur Michael Arner, le professeur américain, a créé la fondation pour l'étude chamanique, Foundation for Shamanic Studies, et qui a des branches dans les pays francophones et qui enseigne aux occidentaux les principaux composants des techniques chamaniques, c'est-à-dire recouvrement d'âme, extraction chamanique, travail avec la mort, avec les rêves, et puis le recouvrement de l'animal totem. Tout ça, si vous voulez, c'est des techniques qui ont été bien décrites par Mircea Eliade, dans son livre sur les voies de l'extase, les techniques chamaniques mondiales, enfin universelles, chamanisme, le corps chamanique, c'est-à-dire le chamanisme central. Mais il n'y a pas encore, si vous voulez, vraiment de collaboration où le chaman pourrait aussi apprendre de nous, et il pourrait y avoir un modèle syncrétique, un modèle un peu intégratif, du coup. Moi qui parle de psychothérapie intégrative, il y a aussi cet aspect-là qui pourrait être intégré. Mais c'est vrai qu'il y a un dialogue qui commence à s'instaurer entre... Maintenant, les chamans ne sont pas pris pour des psychotiques, des marginaux ou des magiciens ou des escrocs, comme c'était le cas il y a un certain temps.
Absolument. À quand, soit de votre part, soit d'un recueil collectif, hein, à quand un recueil d'expériences sous psychédéliques, justement? Est-ce que, selon vous, ce genre de recueil ne constituerait pas un argument de choix décisif pour faire basculer...
Alors, il en existe déjà, hein, des recueils d'expériences, mais c'est en langue anglaise, bien sûr. Je pense qu'en France, un tel recueil tomberait sous le coup de la loi pour incitation à la consommation de substances illégales, et vous savez que c'est très lourdement puni en France.
Ah bon, d'accord.
La loi française est une des plus répressives du monde.
Mm-hmm.
C'est-à-dire vous risquez vraiment plusieurs années de prison et des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'amende.
Mm-hmm.
Donc, vous voyez, par exemple, dans mon livre, j'avais inclus tout un chapitre, justement, sur le cadre thérapeutique moderne. Comment...
Oui.
Prendre de manière sécurisée, enfin pour les chercheurs, hein, quand ils font des recherches, les psychédéliques.
Oui.
Eh bien, j'ai dû retirer tout le chapitre parce que donc l'avocat de la maison d'édition Les Arènes pensait que ça pourrait être vécu comme une incitation à prendre.
Mmh.
Alors, c'est en fait, au contraire, des précautions d'usage, mais que les scientifiques utilisent dans leurs études.
Mmh.
Vous voyez, par exemple. Donc, faire tout un recueil avec des expériences.
C'est un peu délicat.
Ou alors, il faudrait dire que ça vient d'autres pays, quoi.
Voilà, ok.
Ça serait un peu mentir aux gens, mais bon.
Mais alors, qu'avez-vous pensé, par exemple, je présume que vous avez lu le livre de Narbi, Kounen et Ravalek, voilà.
Oui.
Qu'avez-vous pensé de ce livre, par exemple?
Ben, c'est vrai que c'est un livre courageux, et puis qu'a priori, ils n'ont pas eu de retombées légales.
Mm-hmm.
C'est vrai que c'est un livre qui parle de leur expérience, c'est juste. Après, oui, c'est une bonne c'est une bonne remarque.
Oui, alors la différence, c'est peut-être, se situe peut-être là, c'est qu'en fait, ils relatent leur expérience, mais dans ces pays, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont toujours, voilà, ils ont
déjà,
toujours,
voilà. Ouais. Premièrement, ils relatent leur expérience dans ces pays. Mmh. Ils mettent vraiment beaucoup l'accent sur la précaution, c'est-à-dire ne le faites pas tout seul dans votre coin, hors d'un contexte chamanique. Effectivement. C'est vrai, vous avez raison, c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, voilà, certains médicaments comme le LSD ou comme l'ecstasy dans de bonnes conditions ou comme la psilocybine peuvent être utilisés dans un contexte médical occidental. Ça, c'est vrai. Ils n'incitent pas, si vous voulez, les pouvoirs publics à se protéger de leurs paroles.
Mmh.
Alors, il y a aussi parmi les... Vous m'aviez demandé aussi les freins. Il y a aussi les associations de famille ou les, je dirais presque, des sectes anti-sectes, c'est-à-dire des gens qui suspectent toute personne prenant des psychédéliques dans un cadre chamanique, de faire partie d'une secte, d'être dans un état de soumission chimique. Et puis quand les jeunes qui sont souvent en crise familiale donc changent avec ces substances, et parfois donc comme dans une psychothérapie, hein, où quelqu'un peut divorcer après une psychothérapie parce qu'il s'aperçoit que son conjoint ou sa conjointe n'était pas la bonne personne, ou qui se sépare de sa famille parce qu'il s'aperçoit de l'influence toxique de sa famille sur son développement personnel.
Ce qui peut aussi d'ailleurs arriver en embrassant une idéologie religieuse, par exemple. Hein.
Oui, voilà, tout à fait. Mmh. Mais enfin, en tout cas, disons que l'effet psychologique fort qui se produit lorsque les gens prennent ces substances peuvent les amener à, effectivement, rompre certaines attaches, sans que ce soit pathologique, sans que ce soit l'embrigadement. Bon, c'est vraiment parce qu'ils sont aperçus que c'était nécessaire à leur croissance. Et dans ces cas-là, là, effectivement, les familles réagissent mal et suspectent des psychédéliques, des instruments de soumission des gens, de manipulation, ouais. Ce qui n'est jamais le cas. Hein.
Mmh.
Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu aucune secte, pour l'instant, reconnue qui mettait les gens sous psychédéliques pour les manipuler, parce qu'en fait, les psychédéliques libèrent. Ça donne conscience de la richesse qu'on a en soi-même, ça donne des directions très personnelles. Ça vous montre des pistes à suivre personnellement. C'est jamais de faire la même chose selon les gens, et même pour une même personne, la psychédélique ne montrera pas forcément la même chose à un moment ou à un autre de votre vie. Donc vous voyez, je voulais faire un peu cet aparté par rapport à la question que vous m'aviez posée sur les freins, mais il y a la grande crainte de certaines organisations de famille, d'ailleurs qui se méfient, comme l'UNADFI, qui se méfient beaucoup de tout ce qui est spirituel et religieux.
Mmh.
Et là, ce sont presque des sectes anti-sectes, hein, à ce niveau-là. Quoi.
Mmh. Alors justement, donc on va prochainement interroger également Jérémy Narbi, et donc il parle dans ce livre Conversation autour de l'ayahuasca, de sa façon d'appréhender en fait les psychédéliques,
oui.
et lui, bon, à la différence d'autres personnes qui, à la limite, vont basculer dans le système chamanique. Oui. Jérémy Narby, par exemple, a plutôt une approche, lui, on va dire occidentale. Oui. C'est-à-dire que, et comme vous disiez, en fait, il a un questionnement, par exemple, qui le taraude pendant à peu près une année. Et puis, tout à coup, il va reprendre, donc, évidemment, là-bas, un peu de substances psychédéliques, qui va lui permettre de répondre à cette question. Et ça va durer, comme ça, toute une année ou plusieurs années, voilà. Etc., etc., voilà. Que pensez-vous de sa façon de consommer les psychédéliques?
Ah ben c'est la meilleure façon qui soit, hein, c'est de laisser le temps à la plante, à la substance, de travailler en soi et intégrer dans la vie quotidienne les enseignements qu'elle vous a fournis. C'est-à-dire que ça sert à rien d'en prendre souvent, déjà parce que premièrement, c'est absolument pas des paradis artificiels comme disent certains, c'est pas un paradis parce que parfois c'est éprouvant, et c'est pas artificiel parce que le niveau de réalité auquel on accède est beaucoup plus profond que les illusions de la réalité quotidienne. Donc, mais pour vous dire que, effectivement, en prendre dans un contexte très très favorable, avec des gens vraiment experts pour vous guider dans l'expérience, et rarement, pour vraiment en apprécier tout le potentiel et prendre le temps de l'intégrer, c'est ce qui est indispensable. Ça sert à rien de faire plein de belles expériences et puis de ne pas en tenir compte dans sa vie quotidienne, si vous voulez. Là, on tombe dans une sorte de dépendance psychologique, c'est-à-dire de consommation de loisirs, pour le fun, enfin pour le fun, je vous dis, ça n'est pas toujours, et loin de là. Mais si vous voulez, oui, c'est même dans un contexte tel que je le préconise, c'est-à-dire utilisé par des médecins dans le monde occidental, ça serait de toute façon pour des prises rares, parfois même uniques, et toujours ensuite avec un temps d'intégration, de digestion de l'expérience, d'implémenter dans sa vie quotidienne des changements réels à partir de ces expériences.
Peut-on dire que une seule prise de psychédélique, enfin, un instant peut-être où on est prêt à la recevoir, peut donner peut-être des indications pour toute une vie?
Ah, exactement. Une seule prise de psychédélique, bien préparée, hein, avec une attention particulière, un encadrement particulier, pour répondre à des questions particulières, peut changer une vie. Oui, tout à fait. Une seule expérience.
Bien.
Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs l'aspect le plus intéressant du psychédélique. Ce que ne peuvent pas permettre les autres médicaments. Personne ne vous dira qu'en prenant un comprimé de Prozac, enfin, ou de Deroxate, enfin, ou de ce que vous voulez, vous allez changer votre vie. Ça, les gens, ça serait pas vrai. Par contre, avec une seule prise, vous pouvez effectivement aboutir à une expérience mémorable, dans tous les sens du terme, qui, si elle est bien utilisée, bien exploitée, bien intégrée, conduira à des grands changements. Palpables, et en termes de santé mentale, en termes de sociabilité, en termes de développement personnel ou spirituel.
D'ailleurs, on peut peut-être même rappeler à ce moment que certains chercheurs ont reçu des distinctions pour leurs travaux, leurs découvertes, et beaucoup d'ailleurs avaient utilisé des psychédéliques.
Ah oui, c'est très intéressant parce que, notamment pour l'ADN, la découverte de l'ADN, vous savez que donc l'ADN, Jérémy Narby, on a fait un élément central dans les visions de l'ayahuasca. L'ADN donc avait été découvert par Watson et Crick. A reconnu que c'était sous LSD qu'il a vu l'intuition de la spirale d'ADN.
Voilà. Et il y a même d'autres exemples, très connus.
Jared Mullis, pour ce qui est le prix Nobel pour les polymères, comme d'ailleurs Crick et Watson ont eu le prix Nobel, qui lui a reconnu publiquement qu'il avait fait, cette découverte grâce à sa consommation de LSD. Sans compter tous les savants, que ça aille de Kekulé, Descartes, etc., qui ont fait leur grande découverte en état modifié de conscience, sans psychédélique, mais lors de rêves, par exemple.
Est-ce que vous connaissez Maurice Dantec, par hasard, l'écrivain?
Non, pas du tout.
Okay. C'est quelqu'un qui, effectivement, prend beaucoup de substances. Alors bon, il y en a certaines, je ne connais même pas. Mais je sais qu'il est à la pointe, vraiment, de ce qui se fait. Voilà. Je pense qu'il se considère en tant que lui-même expérimentateur et expérimenté.
Oui, c'est ça.
Qu'il essaie d'explorer, si vous voulez, tout ce qu'on appelle l'ADN poubelle. Voilà.
Oui, voilà. Donc,
toutes les potentialités.
C'est-à-dire un immense réservoir de potentialités. De l'ADN non encore exploité et qui peut, grâce aux transformations qui s'opèrent dans une substance sur cet ADN, avoir des répercussions en vue physique, somatique, puisque l'ADN code quand même pour le corps.
On peut juste rappeler, que combien de pourcentage d'ADN connaît-on le fonctionnement pour l'instant?
Alors là, vous me posez une colle, parce que je le savais, mais là, je ne l'ai plus en tête. C'est un grand pourcentage d'ADN, c'est un grand pourcentage.
Oui.
J'ai l'impression, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, qu'en gros, c'est 10% de l'ADN dont on connaît le rôle et 90% dont on ne connaît pas le rôle. Enfin, Je suis pas sûr à 100%,
ça doit être à peu près ça. Mais donc, alors justement, les psychédéliques, vous pensez qu'ils permettent, en conclusion, hein, peut-être d'accéder justement à cette tout ce potentiel inexploré?
Ben, c'est une hypothèse qui semble bien tenir la route avec des arguments convergents. Mmh. Alors évidemment, pour l'instant, on n'en est pas au stade de preuve. Mais c'est vraiment une hypothèse de recherche que les psychédéliques, parce que les psychédéliques, ils sont surprenants, ils agissent sur le physique, mais aussi sur le corps, et on peut avoir des guérisons de pathologies somatiques suite à la prise de psychédéliques. Hein. C'est très fréquent avec l'ayahuasca, avec l'iboga, dans les contextes chamaniques. Alors là, c'est la substance, mais c'est peut-être aussi les esprits qu'ont appelés les chamans, c'est peut-être aussi le rituel et l'impression qu'il a fait sur la personne. Hein. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Mais quand même, pour qu'il y ait cette action physique, il faut bien que ça passe par un support biologique, à un moment donné, ou un autre, si vous voulez. Mm-hmm. Donc c'est ce support biologique... qui est celui qu'on peut supposer en premier, c'est effectivement l'ADN. L'ADN qui a aussi été mis en évidence comme étant peut-être un supraconducteur à la température corporelle, qui est à la fois un émetteur-récepteur et qui permet de communiquer avec d'autres champs d'énergie, si vous voulez. Ça, il y a des travaux russes qui ont montré que si on faisait passer un laser à travers des molécules d'ADN et pour tirer l'ADN, ensuite il persistait une sorte de fantôme d'ADN, c'est-à-dire de champ énergétique persistant, qui était lié à la stimulation de l'ADN. Donc vous voyez, l'ADN, l'énergie, le corps, c'est aussi beaucoup ce qui se passe dans les expériences psychédéliques, c'est intéressant comme piste.
Et que pensez-vous justement de donc cette fameuse hypothèse qu'avait posée Jérémy Narby, qui lui donc avait pris, je pense, de l'ayahuasca, oui. Et donc dans les visions d'ayahuasca qu'ont les chamans, oui. Il voit souvent donc des serpents entrelacés, des oui, doubles oui. Serpents, et donc lui, on va rappeler pour l'auditoire, l'hypothèse qu'il avait avancée, c'est que il y avait un parallélisme à faire entre l'ADN, la structure de l'ADN, et les visions qu'avaient ces chamans,
oui.
Et donc il avait avancé l'hypothèse que peut-être ces chamans avaient accès à la molécule dans leur vision.
Oui, oui.
C'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que il y a aussi d'autres hypothèses qui disent que le cerveau sous-psychédélique se met à fonctionner comme un ordinateur quantique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il commence à accéder à des réalités subatomiques. D'ailleurs, dans le domaine quantique, l'espace et le temps modifient complètement leurs propriétés. C'est-à-dire que le temps n'est plus horizontal avec un passé, puis un présent, puis un avenir, mais le temps est vertical. C'est-à-dire passé, présent, avenir se déroule en même temps, simultanément. Donc on peut influer sur le passé ou bien sur l'avenir. Mmh. Dans ce modèle, de la physique quantique. Et la distance n'existe pas. Deux photons qui avaient été appariés, quand ils sont séparés ensuite, et qu'on modifie le spin d'un des photons, l'autre a beau être à des années-lumière de distance, il va se modifier de la même façon, et la transmission de l'information se fait plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que c'est pas une transmission physique. Mmh. Certains parlent de télépathie des photons, mais c'est un peu anthropologisé la physique quantique, mais tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible que sous psychédélique on accède à des niveaux de réalité biologique très fins, moléculaires. Mm-hmm. C'est une des hypothèses, hein, une nombreuses hypothèses pour expliquer le fonctionnement psychédélique. Hein. On peut dire qu'ils ouvrent aussi certains canaux de perception mm-hmm. qui sont à l'état latent, dormant dans le cerveau des gens ordinaires ou en tout cas qui n'ont pas pris de psychédélique, et que c'est comme si vous rajoutiez, avec les psychédéliques, une antenne satellite nouvelle au-dessus de votre toit. Donc vous percevez d'autres chaînes, mm-hmm. d'autres canaux de la réalité. Mm-hmm. Vous voyez ? Huxley avait parlé de ça, hein, en disant que ça diminuait le filtre qui normalement empêche de prendre conscience de toutes les informations qui sont en permanence accessibles, mais que les organes des sens ne peuvent pas traiter tout en même temps. Quoi.
Mm-hmm. Alors écoutez, bon, tout ça est très intéressant. Malheureusement, on n'a pas plus de temps pour développer. Une dernière question peut-être. Comment a été perçu votre livre ? Avez-vous eu des retours positifs ?
Alors, les personnes qui l'ont lu, oui, j'ai eu que des retours positifs. Mmh. Après, pour l'instant, bon, ça fait un mois et demi qu'il est sorti.
Oui. On rappelle, c'est aux éditions Les Arènes. Hein.
Voilà, aux éditions Les Arènes. Je sais qu'il a été réapprovisionné dans pas mal de librairies, ça veut dire que les gens l'ont acheté.
Oui.
Par contre, ce que je sais aussi, et ça c'est mon éditrice qui me l'a dit, parce qu'elle a l'expérience de ça, ça reste un sujet tabou, c'est-à-dire que les grandes radios, les grands journaux, etc., n'en ont pas fait l'écho. Mmh.
D'accord.
Ni des émissions de télé qui parlent de la santé, etc. Mmh, mmh. Aux éditions Les Arènes, j'ai le livre d'un confrère de Frédéric Sonnefeld qui a fait un très bon livre sur la méditer, c'est soigner. Mmh. Donc, et là, ça a été au contraire très très bien accueilli par les médias parce que c'est un sujet à la fois nouveau et en même temps pas dangereux, si vous voulez.
Donc on peut dire qu'il y a encore beaucoup de peur, hein, concernant.
Il y a encore beaucoup de peur et je pense que c'est là qu'on voit les limites des informations qu'on nous donne à la télé ou dans les journaux, hein,
oui.
qui ne parlent que de choses pas très dangereuses et pas très novatrice, parce que, si vous voulez, le jour où au journal de 20h on pourra parler de ce livre,
oui.
Là il y aura eu un grand chemin de fait. Et on préfère souvent nous parler de mode, d'actualité diverses et variées, mais pas forcément des sujets très intéressants. J'ai par exemple vu, ça c'est l'INRES, l'Institut National sur les échéances extraordinaires qui diffuse ça, il y a des DVD sur les guérisseurs philippins, ou les guérisseurs brésiliens, ce qu'on appelle les chirurgiens au manu, ou qui font de la psychochirurgie, qui sont extrêmement spectaculaires, où on voit vraiment ce qui se passe, mais ça n'a jamais été montré à la télé, ça sera jamais montré à la télé, parce que ça, c'est un trop grand défi. C'est une trop grande remise en cause,
oui, c'est ça,
de notre perception de la réalité.
C'est ça. Et vous allez d'ailleurs, vous avez cité l'INRES, vous participez à un colloque, c'est ça, le 4 juin, c'est ça?
Ça s'appelle la nuit des chamans, justement, avec Narbi, Vincent Ravalek et Yann Coudel.
Et il y a une thématique?
Je pense que ce sera justement sur ce que vous aviez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle possible du chamanisme dans nos modèles scientifiques, les apports croisés, mutuels que peuvent s'apporter occidentaux et chamans. Je pense que ça va être ça.
Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Olivier Chambon. Donc, on rappelle votre livre, La médecine psychédélique. C'est aux éditions Les Arènes, Le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes. Le mot de la fin, peut-être?
Le mot de la fin, mais j'espère que les auditeurs, suite à ce que j'ai dit, auront leur curiosité un peu excitée, qui seront prêts à remettre en cause certains préjugés, qui pourront voir donc, dans le chapitre spécial sur les mythes, qu'on nous a quand même beaucoup dit de bêtises sur les psychédéliques, il faut bien le dire, et que jusqu'à maintenant, l'interdiction des psychédéliques était vraiment plus une réaction émotionnelle, irrationnelle, qui ne tenait pas du tout compte des travaux de recherche.
Très bien, merci beaucoup encore Olivier Chambon.
Merci à vous.
Et on vous souhaite bonne route.